Bonjour, ici Europe numéro 1.
Je m'attaque en 5 épisodes à l'année 1957. Et voilà ce que j'ai tiré de nos archives pour vous aujourd'hui. En 1957, les concierges peuvent enfin dormir la nuit. Et puis l'ordinateur pointe le bout de son nez. On invente les péages routiers. J'ai trouvé aussi une histoire d'enfant échangé à la maternité. Et puis, les tout débuts d'un jeune chanteur qui s'appelle Jacques Brel.
1957, Ondelat raconte sur Europe 1.
En 1957, à Paris et dans toutes les grandes villes, chaque immeuble a sa concierge qui veille sur la porte d'entrée. Et il n'y a qu'elle, la concierge, qui a la clé. Alors après 22 heures, quand on veut rentrer, eh bien il n'est pas rare d'entendre gueuler. Hé, la bignole ! Cordon, s'il vous plaît ! Et sans quitter sa loge ni son lit, la concierge tire sur un cordon qui libère la serrure de la porte d'entrée. Mais en juin 1957, ce petit manège inhumain prend fin. Les députés votent une loi qui supprime le cordon de nuit. Les concierges sont soulagés.
Madame, vous êtes concierge ici depuis combien de temps ?
Ça va faire 18 ans, monsieur.
Que pensez-vous de la suppression du cordon de nuit ?
Je trouve que la suppression du cordon de nuit, c'est une chose premièrement très humaine. Parce que avec ce cordon, ça fait perdre naturellement le sommeil quand on est dérangé et que ça porte énormément sur l'état de santé, surtout au point de vue des nerfs. Moi, j'ai eu le cordon pendant 13 ans. Je me souviens avoir eu des 3 et 4 nuits sans pouvoir complètement dormir.
Madame Bournoville, vous êtes concierge ici depuis de nombreuses années. Que pensez-vous de la suppression du cordon de nuit ?
Suppression du cordon de nuit, moi je trouve que vraiment c'est encombrant quand on est toujours éveillé par les coups de fil, vous comprenez ? Et alors toujours tirer le cordon, c'est vraiment pas agréable la nuit. Ça rend plutôt les gens, moi je trouve, nerveux.
Monsieur, c'est votre mari, madame, oui, je oui, pense. Oui. Monsieur, vous êtes heureux maintenant que votre femme ne sera plus réveillée la nuit par le cordon.
Ah oui, d'accord, parce que réellement, elle était réellement nerveuse.
Eh bien, maintenant, vous n'aurez plus à souffrir de cet inconvénient, puisque le cordon sera supprimé définitivement.
Bon, très bien, je vous remercie beaucoup.
Et donc, en 1957, chaque résident récupère la clé de son immeuble. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on invente l'école du futur.
Europe numéro 1. Les nonnes de Saint-Bénédicte qui dirigent l'école religieuse de Covington, en Louisiane, sont en train de révolutionner tout doucement les méthodes d'enseignement primaire et le corps enseignant des États-Unis par-dessus le marché. Les « bonnes sœurs électroniques », comme on les surnomme déjà ici, ont en effet inauguré, au début de cette année scolaire qui prend actuellement fin, un système expérimental où des enregistrements sur bande remplacent la leçon orale, où professeurs et élèves sont reliés par des microphones et des écouteurs, où les examens prennent place dans des cabines téléphoniques. Le tout avec des résultats tellement surprenants qu'ils ont décidé la Fondation Ford, de l'agence philanthropique bien connue, à financer sur son fonds pour l'avancement de l'éducation une session d'études pour membres de l'enseignement qui prendra place cet été.
L'intérêt de ce système, eh bien, c'est de permettre de faire la classe à 4 niveaux en même temps.
L'école Sainte Scolastique, un nom bien choisi puisque Scolastique est la sainte patronne de l'enseignement, groupe une centaine d'écoliers de 7 à 15 ans dans ce gros bourg de Covington de 5000 habitants. Ils sont divisés en 4 salles de classe, chacune équipée en place de chair d'une sorte de console électronique qui ressemble à un clavier d'orgue géant, peuplé de boutons et de voyants lumineux et muni de 4 répétiteurs à bande. La sœur qui s'assied au contrôle peut donc mener 4 classes à la fois. Tandis que le groupe qui n'a pas su répondre aux questions de géométrie, par exemple, réentend la leçon dans des écouteurs individuels, un autre groupe entend une leçon de géographie, un autre d'histoire, etc., toutes ces leçons ayant été enregistrées à l'avance, bien entendu. L'enfant qui veut une explication poussera un bouton qui le signale à l'attention de la sœur et celle-ci répondra par microphone sans déranger le reste de la classe. L'enfant qui baille aux corneilles se verra rappelé à l'ordre de la même manière.
En France, en 1957, au Salon des Arts Ménagers de Paris, on imagine la cuisine de l'an 2000.
Faisons un rêve. Un rêve pour la femme d'aujourd'hui, mais qui sera la réalité de demain, ou plutôt d'après-demain. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscripteur. Mieux encore, plus de mauvaises surprises sur le premier choix. Par télévision, le boucher vous fera lui-même à domicile ses présentations. Mieux encore, dans un classeur, vous choisirez le plat que vous désirez. La carte perforée correspondante, introduite dans une machine, vous expliquera visuellement la recette, tandis qu'un calculateur électronique pèsera, dosera les ingrédients nécessaires et animera les robots chargés de la préparation.
Bien vu ! Vous reconnaissez là les robots de cuisine reliés à Internet d'aujourd'hui. Toujours en 1957, un nouvel objet entre dans la vie des entreprises. L'ordinateur. La dernière prouesse est signée du groupe IBM. Après 20 années de recherche, la société vient de créer l'ordinateur le plus puissant du monde. L'ordinateur 704.
Monsieur Rind, vous êtes directeur des calculs scientifiques de l'IBM France qui inaugure aujourd'hui sa nouvelle machine, l'ordinateur 704. Mais qu'est-ce que c'est que l'ordinateur 704 ?
Bien, ordinateur, c'est pour nous le synonyme de puissance, de raisonnement mathématique, et 704 est un numéro de série de cet ordinateur.
Mais monsieur Rind, à quoi sert l'ordinateur 704 exactement ?
Eh bien, l'ordinateur 704 sert aux mathématiciens pour poursuivre ses études, aux physiciens pour l'étude de la matière, les calculs de réacteurs, d'utilisation pacifique d'énergie atomique, calculs de barrages, etc., etc. Il sert également à l'ingénieur qui, en ce moment, se préoccupe de protéger le territoire en lançant des fusées, en étudiant des fusées. Et vous savez qu'une fusée est une chose très compliquée. Pour en calculer une à la main, il faut plus de 1200 heures de travail. Et l'ordinateur 704 permet de réduire ce temps de travail à 25 secondes environ, c'est-à-dire que l'ordinateur 704 travaille plus vite que ne vole la fusée.
Pour l'instant, le monsieur a oublié de dire une chose. L'ordinateur 704 pèse 21 tonnes et il occupe tout le premier étage d'un immeuble.
Actuellement, monsieur Rind, cette machine ronronne, donc elle travaille, et qu'est-ce qu'elle fait ?
Oui, c'est exact, elle travaille, et elle est en train de calculer l'horaire optimum et le plus économique possible d'un train qui circulerait de Paris à Lille. C'est-à-dire qu'avant d'électrifier cette ligne, on peut, au moyen de la machine, savoir comment une locomotive va se comporter, en quel temps elle fera le parcours et quelle charge elle pourra remorquer. En 50 secondes, l'ordinateur a imprimé toutes les caractéristiques de marche du train de Paris à Lille.
Car elle imprime aussi.
Elle imprime, et non seulement elle imprime, mais encore, je puis, en un coup de baguette magique, la transformer en un piano. Bien entendu, elle n'est pas faite du tout pour ça, mais enfin, on peut s'amuser à cela. Et nous allons essayer, sur la machine, de jouer au clair de la lune.
Raconte l'année 1957.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And it's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're trying to kill and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. But
C'était Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis, tube mondial en 1957.
1957, On de la raconte sur Europe 1.
Début 1957, l'automobiliste français ne peut plus appuyer sur le champignon à sa guise, car l'essence est rationnée. En raison de la crise du canal de Suez, l'Égypte du président Nasser bloque le passage des pétroliers sur le canal. L'Europe n'est plus approvisionnée. Et donc la France doit rationner son essence. Et elle distribue des tickets qui indiquent à combien de litres vous avez droit. Quant aux médecins et aux automobilistes prioritaires, ils peuvent passer par une nouvelle machine.
Nouveau triomphe du robot électronique. À Paris, c'est lui qui calcule désormais les rations d'essence des prioritaires. D'après les questionnaires remplis par les ayants droit, les fiches reçoivent les perforations correspondant aux besoins et aux cas particuliers. Le robot calculateur en tire instantanément des conclusions, calcule et livre sans plus attendre le chèque ticket correspondant. Rapidité, exactitude et arrêt sans appel, le robot est sourd.
Pendant ce temps-là, la crise dure. Au mois de mai 1957, le conflit du canal de Suez n'est toujours pas réglé. Une nouvelle hausse du prix de l'essence est annoncée. Les automobilistes se ruent vers les stations-service.
Je me trouve maintenant près d'un poste d'essence où une nombreuse file de voitures attend pour faire le plein. Dites-moi, monsieur, vous êtes le pompiste. Oui. Depuis ce matin, vous avez une recrudescence de clients. Comment expliquez-vous cela ?
Bah, on explique ça parce qu'il y en a certains qui ont des tickets et qui voudraient faire le plein avant l'alimentation. Hier, ça a été pareil. En plus de ça, les gens viennent, il y a beaucoup de voitures qui viennent et qui veulent avoir de l'essence, mais sans ticket.
Vous en donnez sans ticket ?
Ben, on a bien du mal.
Dites-moi, combien avez-vous vendu de litres d'essence depuis ce matin ?
Depuis ce matin, 3000 litres.
Et habituellement, combien en vendez-vous ?
À cette heure-ci, 2000.
À Montparnasse aussi, l'affluence a été très grande. Monsieur, vous avez eu beaucoup de demandes hier, aujourd'hui ?
Ah oui, surtout en jerrycan.
Vous avez des clients qui stockent ?
Un petit peu, oui, pas mal.
Ils viennent avec des jerrycans et alors...
Des bidons, tout. Comme au début, il n'y avait presque pas d'essence, là, ils arrivaient tous en masse.
Mais alors, quelles sont les raisons de ce stockage ?
L'augmentation, 95 francs, ça fait cher.
200 mètres plus loin, un pompiste a subi aussi les assauts des stockeurs. Monsieur, combien de clients sont venus avec des jerrycans ?
Oh, il y a une quinzaine ou vingtaine dans la journée, quoi. Ils commencent à stocker l'essence.
Alors, tous ces gens-là avaient des tickets ?
Ah ben, évidemment, ils avaient des tickets, mais je ne sais pas comment ils se débrouillent pour avoir les tickets.
Le conflit du canal de Suez se règle fin juin 1957 et les bons d'essence disparaissent en juillet 57. Trois mois plus tard, le traditionnel salon de l'automobile consacre un mastodonte, le dernier camion du constructeur français Berliet, le plus gros camion du monde, le T100. 100 comme son poids, 100 tonnes.
Georges Dodon qui vous parle de Lyon, ce mercredi à 3h du matin. Dans quelques minutes, les portes de l'usine Berlier à Vénissieux vont s'ouvrir pour laisser passer un monstre. Un monstre de 600 chevaux et 200 tonnes, le plus gros camion du monde dont les roues se dressent devant moi, immobiles encore, avec leurs 2,20 m de diamètre. Le T100, c'est son nom, va prendre la route de Paris, ce qui, on s'en doute, n'est pas sans poser quelques problèmes. Un imposant dispositif est en place. Une cinquantaine de CRS motocyclistes vont encadrer le mastodonte et lui ouvrir la voie jusqu'au salon de l'automobile où le dernier né de la famille Berlier va bientôt prendre place.
Le Berlier T100 est conçu pour rechercher des gisements de pétrole. En exclusivité, dès sa sortie d'usine, le reporter d'Europe numéro 1 a pu monter à bord pour se rendre au salon de l'automobile.
Vous êtes le chauffeur du camion, monsieur.
C'est monsieur. Monsieur Gora, Gora Marius.
Bon, dites-moi, comment va se passer ce transport jusqu'à
Paris ? Je pense pas que ça se passera trop mal. La mécanique a été soignée particulièrement pour permettre de ne pas avoir d'ennui en cours de route.
On pense arriver à faire quand même 25 de moyenne. Mais dites-moi, il y a une chose qu'il faut préciser, le camion ne marche pas par ses propres moyens, il est tiré par un tracteur.
Il est tiré, c'est pour éviter à la mécanique des travaux anormaux, le moteur n'est pas... suffisamment rodé. Alors.
Oui, évidemment. Et vous pensez tenir 25 km/h de moyenne?
Oui, oui.
Ce qui vous permettra d'arriver à Paris autour
de... On pense, avec l'horaire et l'itinéraire tracé, arriver à Paris vendredi soir, porte d'Italie, vers 5-6 heures.
En 1957, le salon de l'automobile a lieu au Grand Palais. Et preuve de l'engouement des Français pour la bagnole, il y a foule avant même l'ouverture.
Midi et demi sur l'esplanade devant le Grand Palais, c'est déjà là qu'une centaine de personnes s'est massée sur le côté droit du Grand Palais et attend que les guichets soient ouverts. Attend 13 heures. En tête de la queue, un jeune homme. Monsieur, quel est votre nom, s'il vous plaît?
Je m'appelle Léon Valf.
Et vous êtes là depuis longtemps? Vous faites la queue depuis longtemps?
Je suis arrivé il y a un peu plus d'une heure pour voir le salon, mais l'ouverture n'est qu'à 13 heures, alors j'attends patiemment.
Oui. Et si vous êtes arrivé le premier de tous les visiteurs, des 9 millions de visiteurs qui sont attendus au salon de l'automobile, c'est parce que vous voulez acheter une voiture?
Non, je ne viens pas pour acheter une voiture, mais seulement pour contempler les mécaniques, auxquelles je m'intéresse énormément.
Vous aimez l'automobile, mais vous n'avez pas envie d'acheter une voiture?
J'en aurais envie, évidemment, mais je n'ai pas les moyens quand même.
Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce salon? Qu'est-ce que vous connaissez déjà de ce salon qui
vous a attiré le plus? Je viens surtout voir la Dodge Vespa, là. Tout le monde en parle tellement, alors je vais voir ce que c'est quand même.
Oui, c'est à votre avis la seule nouveauté de ce salon que vous n'avez pas encore vue?
Non, je ne l'ai pas vue. Il y a aussi la frégate avec le débrayage automatique, puis d'autres nouveautés.
Les voitures neuves sont chères, l'essence aussi, mais l'engouement pour l'auto est là. Plus d'un million de bagnoles sont immatriculées chaque année. Dès 1957, on songe à construire des autoroutes à deux ou trois voies pour fluidifier le trafic. Et comment va-t-on financer ces travaux colossaux? Eh bien, par des péages, comme le révèle le ministre des Transports, Édouard Bonnefous, au micro d'Europe numéro 1.
Monsieur le ministre, les automobilistes français demandent la construction d'un réseau d'autoroutes. Pour construire ces autoroutes, n'y a-t-il pas d'autre solution que d'instituer le péage?
Nous pensons actuellement au péage pour financer la construction d'autoroutes. Ce système a l'avantage de faire participer les usagers à l'établissement d'un ouvrage qui leur apportera de grandes facilités de circulation, et cette source supplémentaire de revenus serait particulièrement appréciable dans la conjoncture financière actuelle.
Est-ce que le péage accélérera la construction des autoroutes?
Le péage accélérera considérablement la construction des autoroutes pour une bonne raison, c'est que s'il n'y a pas de péage, il n'y aura pas d'autoroute, étant donné que le budget n'est pas en mesure actuellement de les payer. En 1960, la France devrait posséder 200 km environ d'autoroutes et en 70, ce chiffre devrait atteindre 2000 environ.
En attendant ces autoroutes, les nationales sont très meurtrières. La France est l'un des pays les plus dangereux d'Europe. Alors, pour apporter plus de sagesse au volant, M. Causé a décidé de créer l'Association française des automobilistes raisonnables.
Alors que faut-il faire pour être un automobiliste raisonnable? Il faut ne pas être trop absolu. Imaginez par exemple un automobiliste dont la voiture se présente à un carrefour. Le conducteur a la priorité, il en a la certitude. Qu'il n'en soit pas trop certain, c'est nécessaire. Car la priorité n'accorde pas tous les droits. Elle donne également cependant le droit d'être prudent.
Alors si par exemple je voulais m'inscrire à votre association, est-ce qu'il faut que je passe un examen?
Aucun examen n'est nécessaire. Presque tous les automobilistes partent avec le désir d'être sage sur la route. Mais il arrive un certain nombre de circonstances qui accroissent l'état d'énervement du conducteur et il cesse d'être raisonnable sans même le savoir.
Est-ce que vous avez l'intention de créer un signe distinctif pour les automobilistes?
Nous avons prévu une simple lettre R qui sera apposée au pare-brise arrière ou au pare-choc arrière des voitures.
Eh bien, j'espère que tous les automobilistes français auront bientôt l'air de l'automobiliste raisonnable.
Autre souci routier, en 1957, les agents de police, qui, armés de leurs sifflets, font la circulation au carrefour. En juillet 57, le conseiller de Paris et médecin François Peretti s'inquiète de leurs conditions de travail.
À l'heure vue de dimanche dernier, lorsque j'allais au Grand Prix, j'ai vu avec une certaine inquiétude certains de ces agents, au milieu des allées ensoleillées du Bois de Boulogne, demeurer des heures entières à régler la circulation. C'est à la suite de cette vision saharienne que j'ai pensé à poser cette question à Monsieur le préfet de police.
Et que préconisez-vous pour protéger les agents de police?
Ben, le casque, ce casque qu'on a baptisé de colonial, en effet, c'est une garantie contre les rayons du soleil. C'est un élément de sûreté très léger, très pratique, que nous voyons utilisé dans toutes les villes du sud, je dirais à Marseille, à Bordeaux, à Nice.
Et en sortant du bureau du docteur Peretti, j'ai rencontré un agent de police. Monsieur l'agent, que pensez-vous de cette suggestion ?
Eh bien, la dunette sera la bienvenue, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle a été demandée. On nous tolérerait seulement d'être en bras de chemise, comme c'est le cas à la police d'État, Sûreté nationale.
Je souhaite, monsieur l'agent, que vous puissiez bientôt vous promener avec un casque colonial et une tenue d'été, ce qui achèvera de donner à Paris, par cette chaleur, l'allure d'une ville méditerranéenne.
Durant l'été 1957, un tout nouveau titre de Charles Trenet accompagne les Français sur la route des vacances. Le jardin extraordinaire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distinction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent.
C'était le jardin extraordinaire de Charles Trenet qui remporte un immense succès durant l'été 1957.
1957, on de la raconte sur Europe 1.
En 1957, à Roubaix, la justice se penche sur un dossier très délicat. 7 ans plus tôt, 2 bébés ont été échangés à la maternité de la ville. Ça s'est passé dans la nuit du 28 août 1950. Madame De Roc et Madame Piessé accouchaient simultanément. À l'une, la sage-femme a dit « Oh ben c'est une bien belle fille, madame !» Et à l'autre, elle a dit « Oh ben c'est un bien beau garçon, madame !» Sauf que madame De Roc, à qui on avait annoncé une fille, s'est retrouvée avec un garçon.
Comment vous vous êtes aperçu que le petit garçon n'était peut-être pas votre fils ?
Ben voilà, je me suis aperçu au bout du 9e jour, quand j'ai sorti de l'hôpital, on m'avait prononcé que c'était un petit bébé à la naissance. Et quand j'ai poté au bout du 9e jour pour voir si c'était vraiment ma petite fille que j'avais, c'était un petit garçon qu'on m'avait donné à la place.
Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, j'ai fait appeler la sage-femme et le machin de l'hôpital.
Le médecin-chef de l'hôpital ?
Oui. Et puis tout de suite, ils ont venu dire comme ça que c'était une fille que j'avais mise au monde, mais c'était pas un garçon.
À ce moment-là,
j'ai demandé pour avoir mon enfant. Ils ont voulu pour prendre mon enfant, mais Madame Piessé n'a pas voulu donner mon enfant.
Mais comment avez-vous eu des doutes ?
Toute la durée que j'ai été à l'hôpital, parce que j'ai pas pu la mailloter moi-même, que c'était les fils de salle qui le lavaient, ils m'ont toujours dit que c'était une belle petite fille que j'avais mise au monde, mais c'était pas un petit garçon.
Du coup, Madame De Roc est rentrée chez elle avec un doute incroyable. Est-ce qu'on ne lui aurait pas donné le mauvais enfant ? Tandis que notre mère, Madame Piessé, n'a jamais remis en cause la fille qu'on lui a donnée. Elle a toujours pensé que la sage-femme s'était trompée en lui annonçant le sexe de son enfant. Mais Madame de Roque n'en démord pas. Elle est certaine que les bébés ont été échangés à la naissance. Elle élève le garçon qu'on lui a donné, mais elle se bat devant la justice depuis 7 ans pour récupérer sa fille.
Et maintenant, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez?
Moi, j'espère d'avoir mon enfant, ma petite fille.
Et le petit garçon qui est près de nous, là, et qui, je crois, est le petit garçon en question?
Madame Piécé, alors si jamais elle n'en veut pas de son enfant, j'accepte bien d'avoir mon enfant à moi et son petit garçon avec.
Le petit garçon qui est près de nous s'appelle Louis, je crois. Comment tu t'appelles?
Louis.
Où tu vas à l'école?
Va pas à l'école.
C'est un beau petit garçon blond, il a de beaux yeux bleus. Tu es gentil. Et je voudrais dire que maintenant, ce petit garçon ne se doute de rien, lui ne sait rien.
Du tout, j'ai jamais dit à l'enfant que j'étais pas sa mère, j'ai jamais dit ça.
Autrement dit, pour lui, vous êtes sa maman, et je pense que s'il fallait un jour vous en séparer, ce serait un drame atroce.
Oui, je dis comme ça que si je dois m'en séparer, ça me fera quelque chose, mais il y a que j'aime bien avoir ma petite fille, ça, il n'y a rien à faire.
Et donc, en 1957, une expertise sanguine est réalisée. Et le résultat est édifiant. Oui, l'intuition de Madame de Roque était bonne. Les enfants ont bien été échangés. Le journaliste François Gerbeau, d'Europe numéro 1, rencontre l'autre maman, Madame Piécé. Elle n'accepte pas ce résultat scientifique. Elle ne veut pas qu'on échange les enfants. La fille qu'elle élève depuis 7 ans est la sienne. Point. Son témoignage est déchirant.
Êtes-vous convaincu que la petite Viviane est votre fille?
Oui. Pour moi, c'est ma petite fille toujours. Et restera toujours. Parce que j'étais entrée à la maternité et j'ai couché tout seul. Et la sage-femme m'a annoncé un garçon, mais je l'ai pris une enfant dans mes bras. Et je l'ai embrassé côté droit. Et je l'ai vu sa tache blanche sur le front. Et alors, la servante, elle a posé tout près de moi, ma petite bébé. Et je n'avais tout le temps, ma petite fille tout près de moi.
Autrement dit, Madame Piécé, vous êtes convaincue, mais fermement convaincue que la petite Viviane est bien votre fille.
C'est bien ma petite fille. Et je donnerai jamais, je préfère mourir comme donner ma petite fille Viviane. Ah, ça non. Je donnerai jamais ma petite fille. Jamais.
Faut pas pleurer.
Non, tu vois, tu es très gentille, tu es une petite fille très mignonne. Mais tu vois, ta maman est là, elle a beaucoup de peine, mais je pense que vous êtes vraiment convaincue.
Ah si, je suis convaincue de toute mon sang, toute ma vie, c'est ma petite fille. Parce que c'était là, ils m'ont donné tout près de moi. Je l'ai pris dans ses bras, je l'ai embrassé. Je l'ai vu ses cheveux, je l'ai vu sa tache. Et mon petit garçon dernier est venu, même avec des cheveux noirs comme ma petite fille. Il y en a même des yeux comme ma petite fille, il y en a même des cils. Même ni comme ma petite fille. Alors, on n'a pas de raison, c'est pas ma petite fille. Il n'y avait aucun changement, les enfants. Je préfère mourir comme donner ma petite fille. Ça, je donnerai jamais. Elle s'est trompée, mais sur les sexes. Mais pas sur les enfants. Je suis tout de même une mère. Je vais reconnaître mon enfant.
Cette affaire émeut et passionne les Français. La rédaction d'Europe numéro 1 sollicite alors l'avis de l'écrivain et biologiste Jean Rostand.
Dans le cas présent, évidemment, c'est extrêmement difficile d'avoir une opinion. Et je répète, sur ce plan moral, le biologiste que je suis n'a pas plus le droit de parler et de se prononcer qu'un homme de la rue, qu'un homme quelconque. Mais enfin, je vais quand même vous dire mon impression. Il me semble que dans ce cas-là, le biologique devait céder la place, devait s'incliner devant ce qu'on peut appeler simplement l'humain, n'est-ce pas? Il me semble qu'un enfant qui a été élevé, qui a appartenu, qui a été allaité, j'ajoute même ce fait-là, qui a été par une mère, eh bien, lui appartient quand même profondément et qu'on ne peut pas, à l'âge de 7, je crois qu'il est à 7 ou 8 ans, n'est-ce pas ?
7 ans, 7 oui. Ans.
Eh bien, au bout de 7 ans, on ne peut pas échanger des enfants. D'ailleurs, je dois le dire, je pense qu'il n'y a plus maintenant, au point où on a laissé arriver les choses, il n'y a plus maintenant de solution véritablement juste, de solution véritablement humaine. Car la mère qui réclame son véritable enfant n'a pas tout à fait tort, et la mère qui estime qu'elle a acquis le droit à cet enfant par ses éducations, par ses soins, par son amour, a certainement raison elle aussi. Par conséquent, il n'y a plus de solution juste.
Je vous remercie, M. Jean Rostand.
Finalement, donc, en 1957, la justice reconnaît qu'il y a eu un échange des enfants. Mais pour ne pas rajouter du drame aux larmes qui ont déjà beaucoup coulé, elle décide que les deux enfants seront placés dans des établissements scolaires, auxquels d'ailleurs ils n'auraient jamais pu accéder.
Alors, Madame Val, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez du jugement qui est intervenu dans cette affaire?
Je suis très contente. Je suis très heureuse.
Et Que pensez-vous de la solution qui a été adoptée de l'envoi du petit Henri dans un collège?
Parce qu'il faut vraiment tous les deux déplacer.
Vous acceptez ce sacrifice de bon cœur?
J'accepte le sacrifice de bon cœur pour les deux enfants.
Et dis-moi, Henri, tu l'aimes bien ta maman?
Oui.
Madame Piécé, êtes-vous satisfaite de la solution qui a été choisie?
Pour la bonne heure de ma petite fille, oui, mais elle restera toujours ma petite fille.
Et toi, Viviane, tu es contente d'aller au pensionnat?
Oui.
Mais malgré cela, la famille Piécé ne croit toujours pas à cette version des bébés échangés. Elle n'entretient aucun lien avec son fils biologique. Leur enfant, c'est Viviane.
Vous continuez à affirmer et à penser qu'il n'y a pas eu substitution et que Viviane est bien votre fille.
Oui, monsieur.
Vous avez beaucoup souffert lorsque Viviane vous a quitté. Vous la voyez quelquefois?
Je vois 4 fois par mois.
Et comment est-elle lorsqu'elle vient ici?
C'est sa maison toujours ici. Elle ne change rien.
Vous pensez qu'elle vous considère toujours comme sa maman?
Sa maman, oui. Et j'espère un jour, comme elle comprendra, elle reviendra. Parce que je le souhaite pour même les deux enfants.
Est-ce que vous n'avez jamais envisagé, madame, que vous pouviez vous être trompée et que si par hasard Henri était vraiment votre fils?
Non, ça jamais, monsieur.
Vous ne pouvez pas le croire?
Non, je ne pourrais pas croire parce que je l'ai vu, je l'ai couché toute seule. Ils m'ont donné cet enfant. Je l'ai embrassé, je l'ai pris dans mes bras, je ne l'ai jamais quitté. Alors pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible.
On pourrait croire l'histoire terminée, mais 3 ans plus tard, rebondissement. Madame Piécé accepte de recevoir son fils biologique, le petit Henri. Et tout ça est raconté avec gourmandise par les journalistes.
L'instant est maintenant arrivé. Henri va partir chez les Piécé. Monsieur Piécé est venu le chercher avec Viviane, dont c'est le jour de visite à ses anciens parents. Les deux enfants, sérieux, graves, comprenant parfaitement de quoi il s'agit. Ils ont trop vu de photographes, de journalistes depuis 9 ans pour ne pas connaître exactement l'un et l'autre les raisons de leur curiosité. Le miracle se produira-t-il dans les jours qui viennent? L'étincelle jaillira-t-elle qui fera reconnaître l'enfant de leur chair aux époux Piécé? Mais de toute façon, chez les deux Rocs qui ont retrouvé leur petite fille perdue, une assiette restera vide.
Mais Henri retournera très vite chez ceux qui l'ont élevé. Viviane, elle aussi, fera la connaissance de ses parents biologiques, mais beaucoup plus tard, à l'âge de 21 ans. Et elle aussi ne s'attachera pas à eux. Dans cette affaire, les liens du cœur ont été plus forts que les liens du sang. Et en 1987, cette affaire inspirera le célèbre film d'Étienne Chatiliez, « La vie est un long fleuve tranquille ». Sauf que, dans le film, l'infirmière fait exprès d'échanger les enfants.
La salope. La salope. Oh la salope. La salope.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1957.
En juin 1957, un jeune chanteur commence à faire parler de lui. Il est belge, mais il vit à Paris depuis 4 ans. Il a 25 ans et il s'appelle Jacques Brel. Il vient de gagner le prix de l'Académie Charles Cros, qui consacre les jeunes talents. Et saluez-vous une émission spéciale à la télé dans Rendez-vous avec. Il raconte à cette occasion que sa vie était toute tracée, qu'il devait reprendre l'entreprise familiale de carton. Il en a décidé autrement.
Et voilà, ce monsieur était industriel, marié, père de famille. Et il a tout quitté pour écrire des chansons. Enfin,
oui.
Naturellement, vous avez gardé votre femme et vos enfants.
Oui.
Enfin, vous avez changé
de
vie.
Ça n'empêche pas d'écrire des chansons.
Né à Bruxelles, vivant à Bruxelles, a changé complètement son genre de vie. Et c'est bon comme méthode?
Oui, il faut changer complètement. J'avais l'impression que très rapidement, j'allais devenir vieux. Et un peu pour rien.
Oui.
Parce que
Et votre femme était d'accord pour changer?
Oui, elle était d'accord en ce sens qu'elle se rendait compte que j'allais vite devenir vieux et insupportable. Alors, elle était d'accord.
Et c'est au cours d'un salon de l'emballage que vous avez fait vos premières armes, je crois, dans la chanson.
Oui. Oui, je venais de
c'est
temps
curieux,
en temps.
C'est curieux, ça.
C'est assez curieux, oui, mais toujours le côté boîte qui me poursuit.
Oui.
Et je suis venu là, à Paris, et j'ai été voir des gens haut placés, dont j'avais entendu parler vaguement à Bruxelles. Et je suis venu leur chanter des chansons pour voir ce qu'ils en pensaient, pour voir si ça valait le coup d'essayer.
Que vous ont-ils dit?
Ils m'ont dit que je pourrais peut-être bien essayer.
Derrière la saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain, ou qui sont point levées, plus loin que les frontières, qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau.
Et Jacques Brel raconte en 1957 qu'il s'est battu pour percer dans la chanson, toujours certain de sa bonne étoile.
Quand vous êtes venu à Paris, vous êtes venu seul la première année?
Oui, je suis venu tout seul, je n'ai pas lâchement abandonné. J'ai laissé, d'un accord réciproque et total d'ailleurs, j'ai laissé là-bas ma femme et mes gosses.
Oui.
Parce que ça me semblait bien compliqué de venir ici. Je ne connaissais personne.
Mais si ça n'avait pas marché, la chanson.
Ça devait marcher.
Vous n'aviez aucune planche de salut, rien du tout?
Rien.
Vous aviez tout liquidé?
Il y avait le carton là-bas.
Il y avait le carton quand même.
Il y avait le carton là-bas, mais je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que j'aurais été redemandé.
Vous avez travaillé?
J'aurais jamais osé.
Vous avez travaillé, vous avez écrit des chansons pendant cette première année de solitude?
Oui. J'ai écrit des chansons et je ne logeais nulle part pratiquement. Je logeais là où je pouvais. Alors, j'avais trouvé un cinéma, un petit cinéma qui s'appelle le Trianon.
Vous savez que c'est un ancien théâtre, c'est papa qui dirigeait.
Oui, vous m'avez dit ça.
Oui.
Eh bien, il m'a porté bonheur, oui, c'est près d'Anvers, il m'a porté bonheur parce que il y faisait chaud.
Oui.
C'était l'hiver de l'abbé Pierre.
Il a toujours sa forme de théâtre.
Il a toujours sa forme de théâtre.
Il y a des loges.
Il y a des loges et des cow-boys, parce qu'il est plus ou moins spécialisé. Enfin, du moins à l'époque, il était spécialisé dans les films de cow-boys.
Oui.
Ça réchauffait.
Oui.
Et alors, il y avait moyen de prendre une loge de 2h de l'après-midi à minuit, permanent.
Qu'est-ce que vous voyez comme film?
Ah oui, je connais tout, le flambeau machin, la lance qui rigole, le cow-boy qui sourit. Et alors, je grattais la couleur d'une lampe bleue, vous savez, la peinture.
Mmh.
Puis ça me faisait un petit faisceau lumineux, et là j'écrivais des chansons.
En écoutant le film?
En écoutant, oui, on s'habitue très bien au film cow-boy, vous savez, c'est pas tellement fatigant.
Quand il est arrivé à Paris, Brel a vivoté en écrivant des chansons pour les autres. Et quand quelqu'un n'a pas voulu les chanter, eh bien, il les a gardées pour lui. Celle-là, par exemple.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis,
quand on n'a que l'amour est le premier succès de Jacques Brel. Il date de 1957 et c'est cette chanson qui lance sa carrière.
Il y avait une dame qui parlait à la radio et elle devait dire des choses très graves, très sérieuses. En tout cas, je ne me souviens plus du tout qui était cette dame d'ailleurs. Et je ne me souviens plus du tout ce qu'elle racontait.
Vous écoutiez attentivement.
Mais je sais que brusquement, il m'est venu à l'esprit qu'au fond, tout ça c'était bien joli, mais... c'était l'amour, l'essentiel. C'est une chose que tout le monde sait, et puis je ne sais pas pourquoi j'y ai pensé à ce moment-là. Et la chanson est venue très vite, là.
Ah, très vite?
Ah, là, celle-là est venue très vite, oui. Pourquoi? On ne sait pas. Quand on n'a que l'amour, eh bien, c'est ça qu'on a en se réveillant le matin. On se dit, il y a des inquiétudes à avoir. On remet tout en question, on redémarre. Et puis, ça veut dire qu'on ne pense pas qu'à la pension, qu'il y a une espèce de résignation qui fait qu'on dit qu'on va arriver dans la vie. Enfin, vous comprenez, j'aimerais bien rater ma carrière et réussir ma vie.
Vous avez raison.
Et c'est ça quand on a que l'amour, si vous voulez.
Et c'est avec Jacques Brel que je vais refermer ce premier épisode consacré à l'année 57. Guillaume Vassaux est le réalisateur de cet épisode. La suite de notre balade dans l'année 1957, dans le deuxième épisode.
Retrouvez On de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.